Donc, Philippe, tout est bien qui finit bien. On est de retour à la programmation régulière. Et donc, tu as dû sauter ta chronique de sport de 15h35. Avant qu'on parle à Martin McGuire, fais-nous un petit bulletin sportif.
Oui, parce qu'il y a une grosse, grosse nouvelle aujourd'hui qui va intéresser tout le monde. Même les gens là, pour qui le sport, c'est loin de leur priorité. Il faut être touché par cette nouvelle-là. Elle est tellement importante. Pour la première fois dans l'histoire du baseball majeur, il y a une femme qui devient directrice générale d'une équipe. C'est la première fois que ça arrive dans les quatre grands sports majeurs, NFL, baseball, basketball et hockey. Alors, ce sont les Marlins de la Floride qui brisent ce plafond de verre en nommant Kim Hang. Kim Hang a travaillé avec beaucoup d'équipes au cours des dernières années. Elle a été assistante du directeur général, notamment avec les Dodgers de Los Angeles. Elle travaille actuellement, jusqu'à maintenant, au bureau du commissaire. Donc, une vaste expérience dans le baseball majeur. Et elle devient donc la première femme qui va vraiment prendre les décisions pour les Marlins de la Floride. C'est vraiment un événement qui est extraordinaire là, dans le monde du sport.
Écoute, j'essaie de voir dans les sports majeurs, basket, hockey, etc. Je ne vois pas d'équivalent en termes de position hiérarchique.
Non, c'est jamais arrivé. Il y a mon collègue Steve Simmons de Toronto qui a noté « Non, c'est déjà arrivé. Les Rough Riders d'Ottawa dans la Ligue canadienne de football, il y a bien des années, ont eu une femme directrice générale. Mais dans les sports à gros budget, là, pour faire la distinction avec la Ligue canadienne de football, ce n'est jamais arrivé. Alors, on va sûrement en reparler la semaine prochaine. On devait en parler aujourd'hui avec Alex Agostino. Les événements que l'on sait ont fait qu'il n'y a pas eu de chronique de sport. Mais je pense que c'est une nouvelle qui est assez majeure. Puis d'ailleurs, Alex a déjà rencontré Kim Hang, alors on pourra discuter de tout ça avec lui la semaine prochaine. Un mot sur le Masters aussi, le tournoi des maîtres. Il y a quatre golfeurs qui sont en tête à l'heure actuelle. Non, Tiger Woods n'est pas parmi eux. Tiger Woods accuse 5 coups de retard à l'heure actuelle, mais ce qui est important de noter, c'est qu'il n'aura pas le temps de compléter sa deuxième ronde. Il est au 6e trou et à Atlanta, en Géorgie, là, c'est comme au Québec. Là. Il va commencer à faire noir autour à 17h30, là, on ne joue plus au golf. Alors donc, pour lui, ça risque d'être plus difficile demain, c'est-à-dire compléter la deuxième ronde et par la suite se préparer pour la troisième ronde, parce qu'à moins d'un malheur, il devrait se qualifier pour les deux dernières rondes du week-end.
Très bien, on va aller parler avec Martin McGuire. Salut Martin!
Bonjour messieurs.
Ouais. Martin, écoute, juste avant qu'on passe à la rencontre François Legault, Jeff Molson qui a lieu aujourd'hui, c'est une grosse nouvelle dans le monde du sport. Kim Hang qui devient la première femme directrice générale dans le baseball. Dans le hockey professionnel, est-ce qu'il y a des femmes qui ont œuvré à un si haut niveau hiérarchique?
Il y a des femmes qui évoluent actuellement dans un niveau hiérarchique dans la Ligue nationale. France-Margaret Bélanger avec le Canadien en est une, mais c'est beaucoup sur le plan administratif, Patrick. Il y a pas beaucoup de femmes qui sont, au moment où on se parle, prêtes ou éventuellement ou bientôt prêtes à obtenir un poste de direction hockey comme Mme Hang l'était avec les Marlins de la Floride au baseball. Honnêtement, puis je dis ça, puis je suis un peu désolé de le dire, mais tu sais, j'ai comme l'impression, Patrick, qu'on est peut-être plus à 4 ou 5 ans de voir une chose comme ça arriver dans le hockey, parce qu'il faut qu'il y en ait une ou quelques-unes qui réussissent à monter et à se faufiler près des postes de décision hockey.
OK.
Juste mentionner qu'en Suisse, on a nommé une femme directrice générale de l'équipe de Berne il y a quelques mois. Elle s'appelle Florence Schnelling. C'est une ancienne joueuse elle-même. Et quand elle a été nommée, ça a été vraiment une grosse nouvelle partout sur la planète parce qu'elle devenait à ce moment-là la femme qui avait le plus de responsabilités au niveau hockey dans une ligue de hockey importante. La Ligue suisse est une ligue importante. Alors, Ken Campbell, du Hockey News, qui fait une liste là, des 10 femmes qui sont les plus susceptibles un jour de devenir directrice générale dans la Ligue nationale de hockey. Et au numéro 1, c'est Florence Schnelling.
Les Maple Leafs en ont une qui est très connue, Wickenheiser, qui travaille au développement
Elle est deuxième sur sa liste.
Exactement. Ça va être à suivre parce que les programmes de sport en management sportif, là, il y a plusieurs universités américaines et canadiennes qui les offrent, ces programmes-là. Là, il y en a des femmes inscrites à ces programmes-là.
Très intéressant. Ben, écoute, je pense que ça va arriver de notre vivant, messieurs. OK,
Martin. Que oui.
En effet. Martin, parle-nous de la rencontre. François Legault, Jeff Molson. Est-ce que c'était connu à l'agenda, ça?
C'était plus ou moins connu à l'agenda, dans le sens qu'il s'était déjà parlé à une couple de reprises, dont au printemps, mais aussi cet automne, parce que, évidemment, pour le retour de la Ligue nationale qu'on tente d'organiser pour le 1er janvier, là, il y a une chose qui est bien importante, c'est que dans le processus, au fur et à mesure que cette saison de 48 ou 60 matchs avancera, là, ce qu'on aimerait faire, c'est accueillir un peu de spectateurs. Et là, il y a un appareil qui peut ressembler à un alcotest, là, vulgairement, là, qui sert à détecter la COVID. Et il y a des équipes de la Ligue nationale qui ont bien l'intention de s'informer de cette technologie-là pour être capable de tester des spectateurs à la porte. Est-ce que Santé Canada va l'approuver, cet appareil-là? J'en ai aucune idée. Mais M. Molson, qui est venu rencontrer le premier ministre aujourd'hui, là, c'est un peu pour la suite des choses. Parce que le retour au jeu de la Ligue nationale au 1er janvier, là, ça va tenir la route si éventuellement, peut-être en mars, peut-être en avril, peut-être pour les séries, on peut trouver une façon d'accueillir un peu de spectateurs. Oui. Puis je pense que c'est un peu de ça qu'ils ont jasé.
Donc la Ligue est prête à vivre avec le fait qu'au début, disons, d'une saison anticipée, Martin, là, en janvier,
qu'il n'y ait
pas de partisans. Mais dans l'espoir qu'à mesure qu'on avance, oui, on admette des gens. Bien, évidemment, pas à pleine capacité,
non.
Mais au moins un peu de spectateurs.
Et selon certaines restrictions, comme Jeff Molson nous avait parlé la semaine dernière à prolongation, là, peut-être d'accueillir des groupes, des cellules familiales, tu sais, des gens qui vivent à la même adresse, ils viennent 3-4 au hockey, sont assis ensemble, puis sont dans les gradins. Ça, c'est une des choses, une des pistes que la Ligue nationale va tenter d'exploiter.
Bon, Martin, s'il n'y a pas de spectateurs dans les gradins, ça va être très dur pour certaines équipes dans la Ligue nationale de hockey de faire leurs frais, de boucler leur budget. Il y a beaucoup d'informations qui circulent là, à l'heure actuelle, à l'effet que 4 ou 5 équipes seraient vraiment dans l'embarras s'il n'y a pas de spectateurs, au point que les propriétaires d'équipes de ces équipes-là auraient demandé au commissaire de la Ligue nationale, écoutez, on est peut-être mieux d'annuler la saison parce qu'on n'y arrivera pas. Alors, le vrai du faux dans tout ça.
Écoute, on avait parlé de ça aussi, les récalcitrants. Ils étaient, on disait, entre 3 et 5. Ça, c'est des propriétaires qui aimeraient mieux fermer puis barrer la porte et rouvrir seulement en septembre prochain. Ils sont juste un petit groupe et c'est des problèmes financiers qui les mènent là. Peut-être des propriétaires aussi qui, à l'extérieur de leurs activités de sport professionnel, ont aussi des problèmes financiers dans leurs autres entreprises. La nouvelle, elle est quand même passablement sérieuse parce qu'elle vient du New York Times. Et le New York Times est dans la même ville que les bureaux exécutifs de la Ligue nationale. Alors, ils ont peut-être pas pris ça dans les arbres, cette affaire-là. Aujourd'hui, on a discuté avec Antoine Roussel. Antoine Roussel, qui est l'ancien représentant de l'Association des joueurs des Canucks de Vancouver. Puis, quand on lui a parlé de cette histoire-là, puis il a dit, oui, on le sait qu'actuellement, dans la Ligue nationale, il y a des propriétaires qui ont de la misère. Voici ce qu'il a dit par la suite concernant ce dossier-là. Écoutez bien.
Peut-être qu'il y a des marchés qui sont défavorisés, puis ça va profiter à d'autres marchés, par exemple Québec. Est-ce que Québec pourrait ramasser une équipe qui est en danger en ce moment puis qui n'est pas capable de payer? Est-ce que Québécois pourrait faire ce move-là? Est-ce que une équipe pourrait se transférer à Houston où il y a un gros marché et puis un gros bassin de population qui peut soutenir une équipe aussi? Donc, c'est
possible.
Les trésors amènent des opportunités, je pense, vraiment.
Donc, c'est sûr qu'il y a des équipes qui vont être dans la barre. On le sait, là, en Floride, par exemple, c'est déjà difficile de remplir en temps normal, de remplir les gradins. Alors, une saison là, où il y aurait très peu de spectateurs, ça pourrait être catastrophique. La pression va être forte parce que j'imagine, Martin, que la péréquation en vigueur dans la Ligue nationale de hockey, là, les équipes riches qui soutiennent celles qui ont moins de moyens, tout à coup, ça va moins leur tenter de partager le revenu. Là. Mets-toi dans la peau de Jeff Molson. Oui, organisation riche, mais il n'y a pas eu de revenu là, depuis 10 mois, là, en envoyé en Arizona puis en Floride là, pour aider les Coyotes puis les Panthers, ça ne doit pas trop lui tenter. Là.
Écoute, Philippe, les équipes riches dans la Ligue nationale depuis 7-8 mois ne sont plus vraiment des équipes riches. C'est sûr que ces équipes-là, Toronto, Montréal, sont assis sur une très bonne valeur d'entreprise. Ça, il n'y a vraiment pas de problème. Là. Le Canadien, ça a plus que doublé depuis que M. Molson et sa famille ont fait l'achat de l'équipe. Ça, il n'y a pas de trouble, là. Mais il n'y a pas de rentrée d'argent, comme tu l'as expliqué. Alors, qu'est-ce qui se passe quand les riches sont un peu moins riches, ben ils peuvent un peu moins aider les plus pauvres. Alors, le système de partage des revenus, il est là quand même. Mais à un moment donné, les montants d'argent transférés aux équipes plus pauvres vont être pas mal plus petits. Parce que, honnêtement, messieurs, là, si on fait cette saison-là, là, cette saison de 48 à 60 matchs, là, puis qu'on joue, puis qu'il y a de la télévision, puis un peu de spectateurs, là, il y a des gens pas mal au fait du dossier qui pensent qu'en termes de revenus, là, on va peut-être dépasser le milliard, mais pas beaucoup plus que ça avec cette opération-là. Alors, c'est pour ça
Juste pour donner un ordre de grandeur, là, on a franchi le cap des 4 milliards de revenus dans la Ligue nationale en situation normale.
Exactement. 82 matchs, là, une saison, là, la prochaine. 82 matchs, pas de COVID, là. On estimait à 5 milliards les revenus possibles. Pour vous donner une idée, alors on est dans le 1/5.
Puis là, l'autre problème aussi, ça va être comment on va payer les joueurs, hein, parce que c'est pas encore réglé comment ils vont être payés. On sait déjà qu'ils devront donner plus d'argent dans le compte en fiducie, puis qu'il y a une partie de leur salaire qui sera payée sur 3 ans. Mais est-ce qu'ils vont être payés pour combien de matchs? Ça n'a pas été négocié dans la convention collective.
Ça s'en vient, ça va se discuter, mais la base, là, on part à 70%. Alors, 70%, puis peut-être un peu moins. C'est peut-être là où on est, parce que si vous enlevez le 20% de ce qu'on appelle l'escrow, là, la fiducie dans laquelle on place l'argent, et le 10% dont tu fais référence, Philippe, et en plus, les joueurs ont déjà reçu une avance sur leur salaire en octobre, là. Ils ont reçu un 8% de leur salaire déjà dans leur poche. Alors, écoute, là, on est pas mal autour de 50% là, quand on va finir par faire une entente.
Très bien. Merci beaucoup, Martin.
Certainement. Bonne fin de journée, messieurs.